RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket time, votre rendez-vous basket sur RMC. Les Knicks sont champions. Bravo les Knicks.
Bravo.
Incroyable, c'est vrai que c'est un moment d'histoire de la NBA. Ça faisait 50 ans, plus de 50 ans que les Knicks attendaient ça. Donc c'est un spécial titre de New York avec des très beaux débats et une Dream Team réduite. Un minimum de rotation aujourd'hui avec Arnaud Valadon et Stephen Brun.
Je ne sais pas si on va pouvoir jouer 45 minutes avec Arnaud.
Ah ouais, les playoffs, c'est dur. Salut Pierrot, salut à tous.
Le problème, c'est qu'on a perdu notre troisième homme au dernier moment. Bon, c'est comme ça, ça arrive, on s'adapte, c'est pas de problème. Vous allez faire un one-to-one. Ça va être dur pour monter au cercle, Arnaud, hein, face à Steve.
Oui, mais j'ai plus le physique de Jalen Brunson enfin, en taille, hein, parce que le reste.
Alors, le sacre des Knicks ou la déception Spurs, que retenez-vous de cette finale? Ensuite, nous débattrons quand même de Victor Wembanyama. Peut-il être l'arme offensive numéro 1? Bon, défensivement, il n'y a pas de doute. Offensivement, il y a peut-être un doute après cette finale. Et puis, la partie historique, Jalen Brunson, est-il le meilleur joueur de l'histoire des Knicks?
C'est le gros débat du moment dans l'état de New York.
Le père de Jalen Brunson a tranché en défaveur de son fils.
Il a voulu faire la totote avec son ancien coéquipier Rick Brunson.
C'est exceptionnel quand même de dire ça, non? Il n'y a pas de débat, il a dit c'est Patrick Ewing. Voilà. Il doit être content de Jalen Brunson. Bref.
Fou, il peut pas montrer la bague à son père.
Alors dans le quiz, il n'y a pas de dinguerie, donc je peux vous donner peut-être des petits avant-goûts.
Il y a une question Mesmer.
C'est quoi le sujet?
Il y a une question Mesmer, et alors je la trouve géniale. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, deux fois, bon, c'est un peu en dessous. Je la trouve géniale.
C'est-à-dire?
Bah, vous verrez, hein. Elle est très dure. Elle est très dure.
Mais toi, t'as la réponse?
J'ai une idée.
Ah, donc notre réponse, on ne sait pas si on a bon ou pas. Alors, si t'es pas sûr de ta réponse, comment on fait, nous?
Et soyez convaincants, c'est tout ce que je vous demande.
Ah, donc tu me poses une question sans avoir la réponse?
Ouais, parce qu'on se projette dans l'avenir. Là, c'est pas. Voilà.
C'est retour vers le futur.
C'est retour vers le futur.
T'es Michael J. Fox, quoi.
Ou Doc.
Ou Biff Tannen, peut-être.
Fred Biff Tannen.
Non, il est très très méchant, Biff Tannen.
Fred
il a un bon fond. Non, mais il a bon fond. Il râle, mais il a un bon fond.
Il a un bon fond.
Je suis pas sûr. Hein. Allez, c'est parti. On revient sur le sacre d'Enix d'abord.
Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over. It's over. Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
Allez, le sacre des Knicks ou la déception des Spurs, que retient-on? Évidemment, un peu des deux. Hein. Mais pour vous, quelle est l'histoire de ce match? C'est les Knicks qui étaient,
en mission.
En mission, prédestinés, plus fort que tout le monde, plus fort que tout, ou qui ont eu de la chance? C'est quoi l'histoire de ces finales NBA? Non, de la chance dans le parcours.
Parce que bon, il faut toujours, au final, dans le parcours, ils évitent
Détroit, ils évitent OKC.
Mais il faut toujours
ils éclatent tout le monde.
Il faut toujours une petite part de réussite hein, dans un run de play-off. Et puis, on l'a toujours dit, on va le répéter, l'important c'est d'être en bonne santé. Ça a été le cas de New York qui, par le passé, a déjà fait finale de conf l'année dernière, demi-finale de conf, on se rappelle, contre Indiana. Ils sont sur les jantes, il y a des mecs blessés, ils ne peuvent pas jouer.
Merci Thibodeau.
Exactement. Et là, ils sont tous en bonne santé. Il y a une rotation à 10. Ils profitent aussi de Joe Mazzulla qui a fait une dinguerie avec les Celtics en termes de coaching. Ils profitent que Joel Embiid, qui a été plutôt bon contre les Celtics, soit ensuite off quasiment la série face à New York. Ils profitent du choke légendaire des Cavs aussi sur ce match 1 qui fait, je pense, la bascule sur le sweep. Ils profitent aussi que ce soit peut-être les Spurs en finale NBA et pas OKC au complet avec Jalen Williams et Jimmy Mitchell. Il faut, voilà. Après, on ne va pas uniquement mettre le titre de champion NBA sur le dos des carences des uns et des autres, des blessures.
Surtout qu'ils ont gagné contre tout le monde de la même manière. Donc, c'est qu'ils ont une identité quand même de jeu.
Exactement.
Et
ils ont montré déjà en saison régulière que c'était peut-être la kryptonite des Spurs, puisque c'est la seule équipe qui a dominé autant de matchs que ça, les Knicks. Parce qu'on rappelle que les Knicks ont pris les deux seuls titres de la saison que le NBA offre depuis quelques années. Ils ont gagné la NBA Cup, ils sont champions NBA. Donc, on va leur donner énormément de crédit. C'est une équipe qui vit ensemble déjà depuis quelques années, qui a la maîtrise des playoffs et qui ont vécu quelques déceptions. Et puis, Et puis, je trouve que Mike Brown, je trouve qu'il y a eu une réinvention un peu parce que autant en saison régulière, moi, Il ne m'avait pas convaincu. Je détestais la façon dont jouait les Knicks. Je détestais la façon de Mike Brown qui avait pris le relais de Thibodeau, mais finalement qui restait un petit peu dans cette même philosophie-là de tout pour le Brunson Ball et le reste, et ben vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Peu de rotation. Et tu t'aperçois que c'est peut-être l'équipe qui a joué avec le plus de joueurs sur les playoffs. Il joue à 10, hein, voire 11 avec, j'ai jamais son nom, Uctopi, je ne sais pas.
Uc Porti,
qui a joué quelques minutes aussi quand Carl Anthony Towns avait des fautes. Et tu t'aperçois que les Spurs ont fait l'inverse. Ils avaient une rotation bien plus présente en saison régulière et Mitch Johnson a voulu réduire ça drastiquement.
Ils ont quasiment fini à 6.
Ils ont quasiment fini à 6. Donc voilà, donc beaucoup de crédit aux Knicks, beaucoup de crédit au petit bonhomme qui mène le jeu de cette équipe-là. Donc il faut leur donner, ils ont été monstrueux, ils ont mis des roustes, hein. Ils gagnent 13 matchs de suite en play-off, c'est la deuxième plus longue série. C'est la deuxième plus longue série, il y a des écarts monumentaux, il y a deux sweeps, donc moi je veux rien enlever à cette équipe des Knicks. Maintenant, moi, j'aurais souhaité que Victor gagne pour les Spurs, donc on peut revenir sur la physionomie et la déception des Spurs, parce que moi si je suis déçu, j'imagine même pas comment sont les joueurs des Spurs aujourd'hui.
Par contre, laisse un peu la parole à Arnaud, parce qu'on a besoin de toi aussi, on a peu de rotation aujourd'hui.
Moi je suis en rotation, je suis le Luc Cornette de...
parce que si tu vas te retourner vers Fred, il n'est pas là.
Arnaud.
Non, moi je retiens quand même le titre d'Enix parce que 53 ans, c'est une franchise
maudite,
qui en a bavé. Il y en a eu des projets. Hein. Tu fais venir Carmelo.
Si vous avez suivi les questions Mesmer, une des premières, c'était ça. Hein. L'Enix, c'est le PSG de la NBA. C'est-à-dire que quand tu es débarrassé de cette lose, ça devient après, attention.
Une winning machine.
Quand tu commences.
Tu vas pas t'envoyer back-to-back quand même.
On est sur 8 champions différents de suite. Je crois
sur
que c'est
8
ça
ans,
la
stat. Ouais.
Non, mais c'est sûr qu'on ne les imagine pas faire un back-to-back. Mais quand tu arrives, quand quelque chose fait que tu te débarrasses de cette poisse, de cette loose qui te mange le cerveau, ça redevient une équipe normale et donc très compétitive parce qu'il y a quand même des moyens. Hein.
Et en plus, cette loose qui est contagieuse parce qu'il y a des joueurs, ils arrivent, ils mettent les maillots d'Enix pour la première fois. Ils n'ont pas vécu tous ces traumatismes. Et finalement, tu as l'impression que. La force de la lose et des déboires d'Enix pèse sur les joueurs. Eux, ils se sont débarrassés de ça. T'as raison, Pierre. Bravo.
Pèse sur l'environnement. Regarde, on a Gershon qui a pu connaître ça quand il arrive. La fin d'aventure d'Enix pour Evan aussi. On sait que au-delà du maillot,
le passage de Joaquin qui s'est perdu dans la Nike de Big Apple.
Là pour nos Français, mais tu sais aussi que l'environnement, la presse, tout, parce que les Knicks, c'est le club de New York. T'es pas partagé. Brooklyn n'existe pas dans le cœur des New Yorkais. Alors que tu prends le baseball, c'est soit les Yankees ou les Mets, les Jets, Giants en football américain, en hockey Rangers, Islanders. Mais là, les Knicks, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on voit une folie incroyable partout dans la ville. Donc t'as c'est beau de voir un titre d'Enix et tu vois tous les fans. Alors, on peut penser à Jacques Monclar aussi, nous en France, tout ça. Erwan aussi à Botrette, qu'on connaît aussi à RMC de la First Team. Mike Breen, qu'on a entendu en commentaire, le commentateur sur la télé nationale qui est fan d'Enix. Mais tu vois, les Spike Lee, tous ces gens-là, c'est quelque chose, l'Enix. Moi, ce que je retiens sur l'aspect basket, c'est aussi l'acceptation du rôle, notamment Karl-Anthony Towns, qui finit à 13 points cette série en finale, qui a eu un impact défensif incroyable aussi dans la raquette, qui n'a pas été dominant, parce que 4, qui finissent à 13 points sur une finale NBA, tu te dis, il y a un problème. Normalement, il fait du 20-10 tout le temps.
Il avait un autre métier à faire.
Il a mis 2, c'est ça, sur le match 5, non?
Ouais, c'est possible.
Un truc comme ça.
Mais il avait un autre métier à faire.
Mais
et il faut lui donner du crédit, parce que c'est un garçon qui s'est souvent caché défensivement. C'est un garçon qu'on a beaucoup loué ses qualités offensives et qui cherchait souvent à mettre des points. Et là, il s'est sacrifié. Il a sacrifié des matchs, Karl-Anthony Towns, parce qu'il aurait pu se dire.
Ils ont bien défendu globalement.
Ouais, mais Towns, parfois, il joue très peu de minutes parce qu'il fait des fautes, parce qu'il s'envoie son défi face à Wembanyama, et à un moment donné il aurait pu se dire attendez, moi j'ai envie de jouer 30 minutes en fait, pourquoi je vais faire des fautes bêtes. Et ben non, il s'est sacrifié. Karl-Anthony Towns, ils ont été obligés d'envoyer Uc Porti
Mitchell Robinson.
Combien de fois il a été en foul trouble, Karl-Anthony Towns?
Il aurait pu faire un petit focus, parce que bon, moi j'ai pas votre connaissance basket. Quand il est sur le terrain, je trouve affreux, mais par contre, rebond offensif, c'est un carnage.
Il en a appuyé sur la tête de Victor.
Et ça leur a fait très mal aux Spurs. Hein.
Oui, c'est un garçon qui
a
des carences. qui a les carences, tu sais que quand il va sur la ligne de lancer franc,
et ouais, ben, bon, il tire, c'est horizontal son tir.
Comme beaucoup de pivots qui n'ont pas de main.
C'est catastrophique, tu fais que du alley-oop avec lui, mais au rebond offensif, il permet d'avoir des deuxièmes ou des troisièmes chances qui sont précieuses. Il se sacrifie. Alors, il n'a pas un gros coffre. Hein, sur le match 4, il a fait 3 allers-retours. Il a demandé des changements parce qu'il était cramé. Mais c'est un backup. Et c'est un backup qui fait son boulot et qui ne demande pas plus. Il sait ce qu'il a à faire. Et sur ses finales NBA, pour un backup, il a été meilleur que le backup de Victor, qui est Luke Cornett, qui est passé totalement
Luke Cornett, qui avait donné un peu d'espoir quand même sur les playoffs, mais qui en finale
et même en saison régulière
totalement absent. Ouais.
Il n'a pas pesé, et au contraire de tout le roster. Tout le roster des Knicks n'est pas la frite Cornette.
Ah, mais on l'a fait 8 fois déjà dans la saison. Quand même, donc on va pas à chaque fois s'y arrêter.
Non, mais il faudrait qu'il joue avec McCain, Cornette.
Bah oui,
avec McCain.
Ça a été fait déjà.
Mais il n'y a pas un joueur des Knicks qui, à un moment donné, n'a pas eu un petit momentum pour aider cette équipe-là. Jordan Clarkson, match 3, match 4, il met des tirs. Alvarado, le portoricain, il a des séquences aussi très importantes.
Landry Shamet
a des séquences très importantes.
Et puis surtout Anunoby, quand même. Il faut parler d'Anunoby.
Sur le comeback du match 4. Mais après, tu sais qu'il peut le faire.
Anunoby, c'est un starter. C'est un joueur quand même plus...
Anunoby, je trouve qu'il a fait beaucoup de mal à Victor. C'est-à-dire que c'est celui, je pense, en 1 contre 1, qui a passé Victor le plus de fois et le plus facilement, j'ai trouvé.
Bah, il lui met deux dunks. Et en fait, New York n'a pas eu peur. Toutes les franchises ne veulent pas attaquer Victor. Eux, ils se sont dit, on va l'attaquer. Et même Karl Anthony Towns, partir de la ligne à 3 points, driver Victor Wembanyama pour l'amener au cercle et scorer sur lui. Anunoby, j'avais jamais vu ça. Un mec qui, devant Victor, le met sous le panier et lui monte dessus pour dunker. En fait, ils se sont dit, OK, c'est un défenseur exceptionnel. Mais on va essayer de temps en temps d'aller le provoquer plutôt que de refuser ce qu'il nous donne. Et force est de constater que ça...
Ils ont bien fait. Parce que là où Victor est très fort, c'est en dissuasion quand il est derrière avec sa dimension, mais d'aller le chercher au contact comme ça, je pense qu'ils ont peut-être été aussi surpris, les Spurs, par ce choix tactique, ce choix de Mike Brown qui a quand même outcoaché Mitch Johnson sur cette série. Par les choix, jamais... Alors, outcoaché, ça peut paraître, quand on voit les écarts qui sont quand même...
Oui,
infime,
mais ça joue parfois sur les détails, sur des décisions.
Mais tu sens quand même que jamais les Knicks ont manqué des momentum et des money time, en fait.
Alors justement, de ce point de vue-là, est-ce que vous êtes déçu de la finale des Spurs ?
Alors, il faut tout remettre dans son contexte. Hein. Déjà, on était déjà stupéfait de les voir là en finale NBA.
T'aurais signé dès le début de la saison.
Stupéfait de voir gagner un match 7 à OKC, qui est le champion en titre avec le double MVP. Voilà, mais maintenant que tu as la satisfaction d'avoir fait ça, tu es en finale NBA, t'y es. Tu mérites d'être là. Et ils ont mérité cette finale NBA parce qu'ils prennent 4-1. C'est le 4-1 le plus sévère, je pense, de toutes les finales NBA. Parce qu'ils ont été dans le coup systématiquement. Ils ont été plus que dans le coup parce qu'ils ont dominé quasiment l'intégralité des rencontres. Mais à un moment donné, quand tu as 5 money time à jouer et que tu n'en gagnes pas un, Pierrot, c'est problématique. C'est problématique. Et ce qui est problématique aussi, c'est que Victor, qui est le franchise player de cette équipe-là, a décliné au fur et à mesure des matchs. Et que dans le money time, Victor...
La comparaison
Brunson-Victor, elle fait mal dans le money time. Elle fait très mal. Alors, ce n'est pas les mêmes gabarits, ce n'est pas les mêmes traitements, parce que Victor, ils l'ont épuisé. Ils l'ont épuisé à le toucher en permanence, à lui taper dessus, à faire des box-outs qui ressemblent plus à Hulk Hogan sur des prises de catch que du basket. Mais ils l'ont fatigué. Et Victor, il n'avait plus aucune lucidité. Et à l'image de ses partenaires aussi, qui n'ont pas su le trouver dans les bonnes positions. Alors que Brunson, lui, toute la saison, Brunson, il a shooté entre 20 et 30 fois. Donc oui, lui, ces situations-là, il les connaît, les money time où il a le ballon dans les mains en permanence. Parce que Victor, c'est la première fois qu'il devait découvrir. Et malheureusement, il a lâché des points en route, des lancers francs, des tirs de la gagne, une balle perdue. Donc moi, j'ai beaucoup de déception pour les Spurs. Eux, ils doivent avoir les boules. Avoir les boules parce que si tu perds la finale 4-1, que t'as pas existé, très bien, bravo. Mais là non, s'il y a 4-1 pour les Spurs... Je me réveille, moi, que j'étais dans le coma un mois et demi, je me réveille, il y a 4-1 pour les Spurs. Je dis OK, OK.
Oui, c'est possible, en ayant mené au minimum de 12 points dans chacun des matchs, et dont une fois 29. En moyenne, je crois que c'est 16 ou 17.
Ouais. Ouais,
c'est ouf.
Après, tu sais, c'est marrant, c'est un peu la tendance, je trouve, de cette saison NBA où tu as des équipes qui ont pu mener très largement et perdre derrière. Parce qu'il y a un des trois Orlando qui est un peu comme vous, Orlando, je crois.
Ouais, mais là, c'est à la chaîne.
Comme ça.
Et c'est ça qui est inquiétant.
Mais ça, je trouve que c'est aussi un résumé de cette saison NBA.
5 de suite contre le même adversaire.
Oui, mais aujourd'hui, tu as l'impression que mener de 15 points dans un match NBA au milieu du troisième quart-temps, ça ne veut plus rien dire.
Je sais pas,
mais ça devrait.
En saison régulière, oui.
En playoff, on n'avait pas l'habitude, je suis d'accord.
En playoff, on n'avait pas l'habitude. En saison régulière, combien de fois tu mènes de 30 à la mi-temps ? Déjà, mener de 30 trop tôt, déjà, c'est jamais bon parce que tu as le rébellion de l'autre équipe. La tendance aussi du jeu NBA avec beaucoup de tirs à 3 points fait que tu peux combler des écarts très rapidement. Si tu as un coup de chaud, tu mets 4-5 tirs de suite, et hop, de moins 15, tu as égalité. Mais en playoff, tu es censé quand même avoir ce contrôle du ballon, la gestion du tempo, la gestion du temps, et puis trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie.
Quand tu es à moins 29 et que tu arrives à moins 12, moins 13, là, tu dois pouvoir être capable, avec cette. Oui, à plus 29, ouais. Être capable de changer quelque chose juste pour ralentir l'adversaire, ouais, pour faire que à la fin, il te reste 2 minutes, tu as 5 points.
Et puis le temps mort en NBA, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont tellement
pris,
coulé.
Moi, je trouve ça franchement inquiétant. Je vous dis franchement parce que...
Non. Oublie pas la perte de balle au match 2 aussi. Quand,
Parce que comme tu dis, tu perds. Bon, tu perds en ayant un ou deux matchs chauds que tu n'arrives pas à gérer, etc. Ok, c'est ce qu'on voit tous les ans. Moi, je n'ai pas de souvenir d'une finale avec un scénario identique à chaque match, défavorable à la même équipe et surtout... avec une disparition. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils les ont perdus, les Money Time. C'est que quand tu regardais les matchs, tu savais qu'ils allaient les perdre.
Il y a une disparition.
C'est-à-dire que je pense qu'ils étaient cramés.
Ils n'ont rien fait pour les gagner. Il n'y a pas un joueur, et là, on va reparler de Victor, qui a pris les choses en main pour dire, écoutez, c'est moi le boss, donnez-moi le ballon, je vais aller finir le match. Et donc, tu as eu une fatalité qui fait qu'au cinquième, à peu près à entrée de quatrième quart, tu sais que c'était mort, alors qu'ils avaient encore un écart de plus 10. Moi, c'est ça que je trouve très inquiétant, parce qu'il y a un truc à combler là-dessus. Alors, peut-être les progrès de Victor vont faire que, on l'espère.
Meilleure rotation.
Mais ils ont quand même, il faut en parler, un contrat d'Aaron Fox qui va les plomber, parce que quand Victor a signé son contrat max.
Tu auras encore dans le contrat rookie.
Oui, mais tu n'auras plus de marge de manœuvre pour t'améliorer. Et cette équipe-là va devoir s'améliorer si elle va être championne NBA. Oui, ils sont très forts. Ils sont allés en finale avant qu'on les attende en finale, soit. Mais là, ils ont un déficit d'agressivité dans le money time qu'il va falloir combler en changeant l'équipe. Je vois pas comment ils peuvent faire autrement.
Tu peux pas tout bouleverser non plus.
Il va falloir faire un ajustement qui te permet de.
Il y a des ajustements à faire. Maintenant, D'Aaron Fox, pour moi, je pense qu'il sera encore aux Spurs la saison prochaine.
Je vois pas comment ils peuvent s'en séparer avec 60 millions à payer pendant 3 ans.
Tu peux trouver des pigeons pour monter un trade. Hein,
c'est un pigeonnier.
Oui, on s'arrête sur les 5 derniers matchs de D'Aaron Fox et même peut-être la finale de conférence. Alors déjà, c'est un garçon qui a un gros problème de cheville depuis le début des playoffs. Après, D'Aaron Fox en saison régulière.
Mais c'est pas qu'un mec. Ça peut pas être qu'un mec quand t'as personne, à part peut-être Dylan Harper.
Non, mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que tout mettre sur le dos de D'Aaron Fox, qui certes passé au travers de sa finale, qui a fait des mauvais choix, mais comme tout le monde, parce qu'il y a une défaillance collective, mais une défaillance individuelle de tout le monde. Stéphane Cassel, il fait 1 sur 10. Hein. Le dernier panier qu'il met, c'est une claquette dunk à 40 secondes.
Il rentre même pas leur lancer quand même.
Il met pas leur lancer, donc il y a une défaillance collective.
Il y a un problème mental. Il y a une défaillance individuelle. C'est final.
Moi, D'Aaron Fox, je reste persuadé qu'il fit avec les Spurs et que l'année prochaine, il sera là. Après, il va se poser dilemme parce que Dylan Harper va avoir des prétentions de temps de jeu supérieur à ce qu'il a eu pour son année rookie et il a montré qu'il avait le droit d'avoir des prétentions supérieures en termes de minutes. Maintenant, la disparition d'Harrison Barnes leur fait très mal. Je comprends pas pourquoi Harrison Barnes disparaît comme ça du jour au lendemain entre la saison régulière et les playoffs. T'es obligé d'amener. Il faut prendre.
Oui, d'ailleurs, pourquoi
Je sais pas. Il faut demander à Mitch Johnson. Je sais pas. Mais il faut amener un poste 4 de haut niveau avec du tir à 3 points. Il faut que le backup de Victor soit bon quand il soit sur le terrain, parce que ça veut dire que s'il n'est pas bon...
Il faudra Gershon, non ? Gershon, il a un tout petit contrat, je crois, non ?
Gershon, il a un tout petit contrat.
Millions, 2 millions 5 la saison.
Oui, mais après, Pierrot, ça c'est nos souhaits. Tu sais, les franchises, elles sont pas forcément...
Non, on leur donne une idée, puisqu'ils écoutent Basket Time, on ne sait jamais.
Mais le problème, c'est qu'il faut que ton backup soit performant sur les minutes qu'il est sur le terrain. Là, le problème, c'est qu'il y avait un décalage entre Victor sur le terrain et Victor sur le banc. Donc, il faut un backup aussi de qualité. Maintenant, je ne suis pas pour tout jeter à la poubelle non plus pour les Spurs. Ça reste encore une équipe qui, l'année prochaine, va être prétendante tout en haut de la Conférence Ouest. Victor, je pense qu'il a les boules. Il a les boules parce que c'était sa finale NBA peut-être un peu plus tôt que prévu, que tout tourne autour de lui.
Le problème, c'est que ça fallait la prendre tout simplement parce que, très franchement...
Mais t'as aucune certitude d'y retourner.
Ils peuvent attendre 5 ans avant d'y retourner.
Ah non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que c'était Onyx de le prendre maintenant parce que les Spurs ont quand même envoyé un signal.
Oui, c'était Onyx,
on est là.
Oui, mais c'est pas une autoroute.
Mais c'est les deux.
Arnaud, Hakim Olajuwon, il attend 8 ans avant d'y retourner en finale NBA.
Ce que je veux dire,
Dirk, il attend 5 ans avant d'y retourner
quand
en finale NBA.
Quand tu vois, tu sais que ces Spurs n'ont pas atteint et sont loin d'avoir atteint leur plafond et qu'il y a encore de la marge de progression.
Mais il y a d'autres équipes, Arnaud.
Il y a d'autres équipes.
OK, ici, au complet.
C'était leur première campagne de playoffs.
Le problème, c'est qu'elle est trop compétitive, cette ligue.
Il y avait que Fox qui, je crois, avait joué des playoffs avant avec une série en 7. Et Harrison Barnes. Mais
oui.
Du coup,
et Luke Kornet qui est champion NBA avec Boston.
Si tu prends sur le 5 majeur.
Ah, ok.
Sur le 5 majeur.
Non, mais t'as raison sur New York, mais c'est la même chose pour San Antonio.
Et les Spurs.
Il fallait la prendre, celle-là.
Ouais, mais après avoir tapé au PC, pour moi, ils ont manqué de taille de réservoir, d'essence dans le réservoir. Parce que quand tu arrives à faire des premières mi-temps excellentes, mais que derrière, eh ben, t'arrives pas à passer la deuxième. Pour moi, il y avait aussi ce paramètre physique,
l'expérience,
manque de qualité sur le banc.
Et puis tu joues des papas, mec.
Mais
à New York, ils ont des papas qui sont là depuis 4 ans, qui ont joué des finales de conf, qui ont joué des demi-finales de conf, qui ont vécu des déceptions. Tu joues des mecs qui maîtrisent aussi ce genre d'événements, Pierrot. C'était la découverte.
À notre questionnement, je pense qu'il ne faut pas rêver de se dire que maintenant, ça y est, les Spurs, c'est une force dominante qui vont aller en finale régulièrement. Non,
en finale de conf,
OKC, je pense, l'an prochain démarrera la saison avec un statut supérieur à celui des Spurs. Enfin, je pense, s'il n'y a pas beaucoup de mouvements, révolution,
après, y a tellement de choses qui peuvent se passer.
OKC sera favori face aux Spurs.
Il y a tellement de choses qui peuvent se passer cet été.
Et puis, à l'Ouest, il y a tellement d'équipes.
Si Giannis débarque à Miami, New York, finalement, ils ne vont plus du tout être contenders parce que Miami et Boston et Détroit vont être devant eux. Denver avec Jokic, il faut continuer à le sortir dans la conférence Ouest.
Et Minnesota, ça peut prendre feu.
Attention, OKC, ils ont encore une belle fenêtre, mais dans 2 ans, il y a 4 joueurs qui vont coûter presque 200 millions de dollars. Ça y est, tout le monde va arriver au contrat max.
Ils ont 45 tours de draft, donc ils feront des trades pour récupérer des joueurs,
aussi.
Arnaud.
D'ailleurs, ils ont payé très peu, parce qu'on parle de Fox, les Spurs n'ont quasiment rien payé pour Fox. OK, ils vont dépenser 50 millions, mais ils ont lâché un tour de draft 2027, je crois, et pas grand-chose.
Oui, mais il coûte très cher quand même.
Pas payé cher.
Oui, mais
c'est une opportunité.
C'est ça, oui, mais du coup, ta marge de manœuvre pour améliorer l'équipe, elle reste limitée quand même. Une fois que Victor aura signé lui-même son premier contrat.
À 301 millions.
Ouais, tu te rends compte. Bon, faut avancer et du coup, on va rester sur Victor Wembanyama.
On n'était pas prêt. J'étais pas prêt à gagner une bague.
Back of the rim, one goal. Wemby the rebound. 12 seconds remaining. Stolen by Brunson and knocked down by Wemby. Brunson will shoot free throws with 9.5 remaining. Oh, what a turnaround in that sequence.
C'est des erreurs. On manque pas de talent, on manque pas de capacité. C'est vrai. On fait trop d'erreurs. Je fais trop d'erreurs.
Fox gets it. Bridges on him. 4 seconds. Fox to Wembanyama. Pulls up. Jumper. Won't go. Rebound taken by Vassell. It's over. It's over.
Alors, on va parler donc de l'avenir à moyen terme de cette franchise. Victor Wembanyama peut-il être l'arme offensive numéro 1? C'est un débat passionnant, je trouve, parce que c'est ce qu'il a manqué, en tout cas dans ses Money Time. Et avant de démarrer, petite réflexion personnelle déjà. Un grand coup de chapeau à la lucidité de Victor Wembanyama après chacun des matchs. Je trouve qu'il est d'abord assez juste, ensuite qu'il ne verse dans aucun excès. Exactement. Il est juste lucide sur une analyse d'ailleurs qui c'est très fort à son âge d'avoir une autocritique aussi fine, je trouve. Et j'étais assez fasciné par la maturité du personnage.
Autant en conférence de presse, des fautes
qu'il a fait dans les matchs.
Autant en conférence de presse, il est plutôt très mesuré. Souvent, quand il y a une question qui arrive, il pose toujours le micro d'ailleurs. Il prend 4-5 secondes, il prend le micro.
Et
après, il réfléchit à ça. Autant sur le terrain. Ses émotions, elles sont fortes. Rappelle-toi de ces images en saison régulière quand ils font un comeback, ils gagnent au match 7 à OKC. Quand ils gagnent, il a quasiment
peut-être
les larmes aux yeux.
Peut-être un peu submergé par les émotions.
Mais c'est un garçon qui est comme ça. Aux Jeux Olympiques, on l'a vu pleurer on l'a vu pleurer quand il perd la finale avec les Mets 92 contre Monaco. C'est un garçon qui exprime ses émotions
ans.
Et tout ça. Et il y a un gros contraste entre les émotions sur le terrain et après quand il arrive avec le micro en conférence de presse où là tout est pesé, tout est réfléchi, tout est
une capacité, je pense, d'analyse très très élevée.
Là, il y a certains, pas tout le monde. monde, mais aux États-Unis, il commence un peu à l'attaquer. Regardez comment il a joué sale, en laissant un pied sous la cheville de Brunson. Il n'a pas été salué à la fin, c'est la tradition. Quand une série est terminée, tu vas saluer tout le monde.
Ça, parce que c'est un gros débat aux States. Hein.
Bah, je pense que c'est mieux de le faire.
Victor est défendu par Robert Horry, Victor est défendu par pas mal de mecs en disant, mais attendez, ils ont joué une finale NBA, tu vas pas serrer la main d'un mec parce qu'ils t'ont botté les fesses, tu retournes au vestiaire. Et puis en conférence de presse, il a des mots pour Jalen Brunson, oui, en disant Jalen Brunson, il a une maîtrise et compagnie.
Mais il n'est pas venu à une conférence de presse, il a cassé quelques codes.
C'est pas écrit qu'il faut serrer la main. C'est écrit où? C'est comme, c'est pas écrit.
Mais c'est l'image traditionnelle. Donc c'est pour ça, ça casse un peu des codes chez eux. Et donc ils sont toujours là. Ah oui, mais t'es prêt à faire des polémiques. Hein,
t'as perdu chez les Skip Bayless. Laisse-les célébrer, tu vas pas leur serrer la main.
Oui, je suis d'accord.
T'as perdu contre des mecs.
C'est sûr que c'est un moment où t'as le plus la haine.
Ah oui.
T'as envie de rentrer au vestiaire.
Après, bon, c'est sûr que si t'es capable de passer outre et de serrer la main, c'est très bien.
C'est l'image aux États-Unis. Tout le monde s'embrasse.
Ils avaient Thomas et les Pistons qui étaient passés devant le banc de boules, qui s'étaient barrés avant. Moi, ça me régale. Et puis ça crée aussi des histoires. Et puis de voir qu'un mec, il a la haine. Moi, j'aime bien.
Donc, petit alarme offensive numéro 1. Honnêtement, c'est quand même le gros reproche qu'on peut lui faire. C'est que dans ce Money Time, Jalen Brunson, il prend le ballon, il va au cercle, il marque. Et on attendait la même chose de l'autre côté de Victor.
Oui, mais il peut pas faire ce que Jalen Brunson fait.
Non, mais différemment, avec ses qualités à lui. Alors, c'est sûr qu'il fallait le trouver, c'est pas pareil. Et c'est vrai qu'eux, ils défendaient bien à l'intérieur. Hein, mais il n'empêche, c'est quand même ce que tu attends d'un joueur de ce statut-là, malgré tout. Hein.
Après, Victor, tu as besoin aussi de le mettre tactiquement plus facilement dans des dispositions. Brunson, t'arrives, t'attends un contre un, t'as éventuellement un pic qui arrive. C'est plus facile aussi pour Brunson de briller que Victor par rapport à son gabarit aussi. Mec, qu'est-ce que tu veux qu'il brille si on vient toujours trapper sur lui, on vient lui masser les côtes. Brunson, il peut t'envoyer des bombinettes de partout, ce qui est moins le jeu de Victor, même s'il est capable de le faire. Donc, je trouve que c'est plus comme arme numéro un, évidemment. Un talent incroyable.
Offensive, hein.
Offensive, hein. Oui, c'est, enfin, faut pas oublier... On a beaucoup parlé de la défense, mais offensivement, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Mais c'est comment les Spurs vont pouvoir tactiquement, à la fois par les décisions de Mitch Johnson, les systèmes, mais aussi le choix des joueurs et de meilleurs joueurs autour de lui, le débloquer et déverrouiller un petit peu tout ça. Pour moi, elle est plus là, la clé. Alors, il a pris encore énormément de tirs, il a eu des opportunités. L'adresse à 3 points, alors c'est normal que ton adresse baisse en play-off. Hein. Brunson aussi, hein, il shoot à 42% sur la série. Mais Victor est à moins de 30% à 3 points. Quelques lancers en route, même si le pourcentage est correct, à plus de 75%.
Ouais, il y en a deux dans le match 4, je crois, dans Money Time, qui font mal.
De quoi ?
Les lancers francs, 0 sur 2.
Oui, oui. Donc, il fait 1 sur 2 aussi sur le match 5.
Moi, c'est plus le mettre dans de meilleures dispositions. Il faut quand même, il est à plus de 25 points de moyenne. Enfin, je veux dire, il a quand même répondu présent, si tu vois, sur l'apport statistique. Oui. On est juste déçus sur ses money time, en fait.
Le problème, là, n'est pas statistique, je pense, franchement.
Non, mais quand t'es numéro 1, ça veut dire sa capacité d'enquiller tous les soirs.
Les chiffres sont bons, Arnaud, mais regarde,
il a fait des matchs dégueulasses, parfois, jusqu'aux 5 dernières minutes.
Les chiffres veulent pas tout dire. C'est reste des chiffres bruts qui sont bons. Après, quand tu regardes le match, tu t'aperçois que peut-être que les chiffres, ils sont un peu trompeurs pour Victor, parce que quand t'as des money time qui joue.
Mais parce que t'as des attentes énormes.
Où est-ce que tu mets tes 26 points? Si tu mets 22 points en première mi-temps et t'en mets 4 en deuxième, je préférerais que ce soit 15 et 15. Moi, pour... Maintenant, je crois que Victor, il va falloir... Moi, quand je vois les superstars, quand je vois Shea... Alors, c'est pas les mêmes physiques, c'est pas les mêmes gabarits, je suis d'accord. Quand je vois Shea Gilgeous-Alexander mettre ses points, c'est toujours dans les endroits qu'il maîtrise. C'est-à-dire que c'est soit sur la percussion, soit sur du mid-range après dribble, ou soit sur du tir à 3 points de temps en temps. Jalen Brunson, c'est soit sur du drive avec sa main gauche, pareil un peu que chez Gilgeous-Alexander. Nikola Jokic, c'est du short roll au niveau de la ligne de lancer franc. Quand il a 3 points, il prend, et sinon c'est du post-up. Je trouve que Victor est à la fois partout sur le terrain et nulle part.
Manque un move signature.
Je le vois prendre des tirs partout sur le terrain. Et peut-être qu'il aurait intérêt à se recentrer sur 2-3 positions précises où il est dominant. Alors oui, il fait 2-24.
Ce serait lesquelles?
Sur du post-up, je trouve que je ne vois jamais Victor sur du post-up. Alors peut-être qu'il va être doublé, mais peut-être qu'il est capable aussi de mettre des paniers quand il est à 4-5 mètres. Peut-être qu'il y a aussi un problème, enfin c'est pas un problème physique, mais il faut qu'il s'endurcisse du bas du corps aussi pour résister aux contacts, pour résister aux impacts et pas péter en l'air et être toujours un petit peu en déséquilibre sur ces tirs-là. Mais je trouve qu'il faut qu'il retrouve des situations où il est dominant. C'est un joueur particulier, t'es 2-24, t'es capable de faire des dribbles dans le dos, t'es capable de faire des step-back, t'es capable de faire énormément de choses, mais peut-être que c'est contre-productif sur la façon dont tu mets tes points. Si jamais t'as des endroits, des spots particuliers, et ça, il faut que Mitch Johnson travaille avec Victor Wembanyama pour le mettre dans des positions confortable, on n'a pas assez vu Victor près du cercle, on n'a pas assez vu Victor mettre des dunks. À 2,24, tu dois poser 4 ou 5 dunks par match et des alley-oops. On ne l'a pas assez vu parce que du crédit Onyx aussi, mais parce que je trouve que l'organisation offensive des Spurs, elle ne met pas Victor dans des bonnes positions là où il peut être dominant.
Est-ce qu'il ne faut pas lui l'emmener chez le préparateur physique de Giannis parce que...
C'est une transformation physique parce que Giannis c'est une crevette au début et Giannis c'est inarrêtable, c'est une bête.
Légèreté.
Mais Giannis t'as pas cette qualité de tir qu'à Victor.
Oui, il y a pas
non,
la qualité.
Non,
oui.
Non, non. Parce
que si Victor avait un tir, peut-être.
Il y a eu la transformation physique de Giannis. Qui aujourd'hui est ultra dominant physiquement.
Oui, mais elle n'est pas arrivée en 2-3 ans, la transformation.
Non, bien sûr, non, je ne te dis pas le contraire. Mais c'est vrai que ce que tu dis, moi, ça m'a frappé. C'est que c'est vrai que des fois, on était frustrés de ne pas le voir à l'intérieur venir leur monter dessus. En plus, il est plus grand donc, et puis il est agile. Donc, il devrait pouvoir le faire. Mais c'est vrai que tu as l'impression qu'il rebondissait dessus parce qu'il est moins costaud. Quoi.
Là, il a un centre de gravité très haut. Il a encore les jambes un peu frêles. Donc, il est déséquilibré. Les mecs, ils le tapent à la hanche et compagnie. Donc, il a du mal à trouver cette
équilibre. Mais
Steve a raison. Il va bosser physiquement.
Steve a raison. Souvent, tu vois les coachs, n'importe quelle division partout dans le monde, quand il te reste 6 secondes, 7 secondes, tu dessines un système et tu mets généralement plusieurs options, mais tu essaies d'avoir ton meilleur joueur sur son meilleur spot.
Moi, c'est ça qui m'a frappé.
C'est donner ballon à Dirk tête de raquette parce que tu sais qu'il va te faire un fadeaway.
Exactement. Et pour le coup, la NBA, plus que le basket européen, a toujours fonctionné comme ça. Et les finales se sont toujours gagnées comme ça. C'est comme ça que New York a gagné. Et moi, je regardais comme un con et puis j'attendais. À quel moment on va le trouver, il va prendre le shoot, qu'il le réussisse ou qu'il le rate. Tu vois, après, tu peux rater. Il y a plein de grands qui ont raté ces shoots-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, il ne s'est rien passé. Rien.
Tim Duncan, qui est le modèle, qui doit être le modèle, Tim Duncan, c'était du post-up, du mid-range, du tir avec la... Tim Duncan, il n'avait pas 350 millions de trucs dans son bagage offensif.
Exactement.
Il était ultra efficace.
C'est qu'il a shooté avec la planche et que ça allait être dedans.
Exactement.
Hein.
Alors, Victor est encore au-dessus parce qu'il a tellement de choses à 2,24. Il peut tout faire sur un terrain, mais je trouve que se concentrer sur 3-4 choses.
Mais ce concept-là ne remet pas en question pour vous le fait qu'il doit être le franchise player même offensif.
Mais
marrant, tu me parles de Tim Duncan. Tim Duncan, il mettait 25 points, mais tu n'avais pas l'impression qu'il avait posé 25 et 10. Parce que quand tu me dis, Victor, si tu mettais 20 points en début de match et tout, mais quand tu dis c'est le modèle, c'est. Alors après, la différence, c'est que Tim Duncan, on lui donnait deux ballons dans les trois dernières minutes et c'était tir avec la planche et ça marquait. Et c'est juste ça, on est tous d'accord sur si Victor avait eu un ou deux paniers ultra clutch. Dans le Money Time, on serait peut-être pas en train
après,
de parler.
Il y en a eu contre KC.
Après, son tir de la gagne, là, sur le...
Match 3.
Non, le tir de la gagne qui rate, c'est le match 2. Oui, il perd le ballon après la gagne. C'est un bon tir, c'est un écran, t'as un pick and pop, il est à 5 mètres, il a un tir ouvert, il met
comme
pas dedans.
Attendait en fait.
Oui.
Après que tu rates ou que tu réussis, c'est autre chose. C'est
souvent le débat qu'on avait eu ici depuis l'entrée de Victor en NBA en 2023. Je me souviens Steve l'avoir dit, il attendait en saison régulière à la fois plus de 50 points et une action clutch, un buzzer beater. On l'attend.
Il a mis les paniers de la gagne quand même cette année.
Oui, mais là, tu l'attends en play-off.
Oui, tu l'attends en play-off.
Maintenant, c'est ça la nouvelle étape.
Alors, c'est quand même les Knicks les champions, donc on rend hommage aux Knicks, y compris en faisant un peu d'histoire.
The 2026 NBA Finals MVP is the captain, Jalen Brunson.
Underneath, puts it up, puts it in. Jalen Brunson does it again.
Brunson with Wimby on him, drives, pulls back. Shot clock at 5. Brunson fires up a 3. Pucks it in! 1-point game! Brunson on the drive. Stops. Falling away. It's up. It's good! Jalen Brunson, another clutch shot. We're tied again. Brunson gets away from Castle. The floater's up and good! Jalen Brunson with another answer. How did he do that?
Et c'est vrai qu'on l'entend dans ce tout petit résumé, il l'a fait et refait et re-refait. C'est là où quand même c'est assez incroyable. Il n'a pas juste mis un tir clutch, il en a mis des dizaines dans ses séries. Hein.
Il a fait des runs parfois pour amener ses équipes à lui tout seul.
45 dans un match décisif, il met la moitié des points de son équipe, c'est assez hallucinant.
Oui, c'est énorme. Et puis contre les Cavs, il a cette séquence où quand ils sont à moins 22, il ramène quasiment les Knicks à lui tout seul.
Est-il le meilleur joueur de l'histoire des Knicks ? Déjà, on va donner les prétendants. Bon, il y a évidemment Patrick Ewing, le pivot des années 90, mais qui n'a pas été champion. Et après, si on remonte à l'époque des champions, on va citer Willis Reed, voire Walt Frazier, qui a été le meneur de jeu, donc l'équivalent de Jalen Brunson. Est-ce qu'il y a vraiment débat ? Pour toi, Steve, il n'y a pas vraiment débat ?
En fait, Willis Reed et Walt Frazier, il faut se replonger dans les archives, il faut aller sur YouTube pour voir ce que les deux garçons faisaient. Willis Reed, c'est le seul Knicks à avoir été élu MVP de la saison régulière, parce qu'il n'y a aucun autre joueur qui l'a fait, et c'est le seul Knicks à avoir deux titres.
MVP de la saison régulière, du All-Star Game et des finales.
Et des finales,
en
voilà.
70.
C'est... Willis Reed et Walt Frazier, qui était un meneur de jeu, il fait 36 points, 19 passes, 7 rebonds sur un match 7 des finales en 70, je crois, Walt Frazier. Mais le problème, c'est que ces garçons-là, ils ont pas choisi les Knicks, ils ont été draftés par les Knicks. Donc ils arrivent dans cette franchise des Knicks qui a été créée il y a 24 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le poids déjà de l'histoire des Knicks. Ils sont champions après 24 ans. Alors ça reste beaucoup, mais c'est moins que 53. C'est-à-dire qu'ils ont été choisis par les Knicks. Ils sont là, ils sont joueurs des Knicks. C'est des joueurs fantastiques. Ils amènent les Knicks au titre de champion. Jalen Brunson.
Je veux dire, ils allaient au boulot le matin. Quoi.
Exactement. Jalen Brunson, lui,
il
a choisi New York. Il a dit je vais prendre plus d'argent, je choisis les Knicks. En connaissant l'histoire de New York, en connaissant tous les grands joueurs passés à New York et qui se sont cassés les dents, la difficulté, et surtout, tu arrives dans une franchise qui n'a pas gagné depuis 53 ans, où il y a une chape de plomb qui pèse. Ce que n'avait pas Walt Frazier et Willis Reed. Lui, il le fait dans un contexte qui est pesant, qui est lourd. Et c'est pour ça que, pour moi, il passe peut-être numéro 1. Il passe numéro 1 aussi parce que s'il n'y a pas Jalen Brunson, est-ce que New York vont chercher Mikal Bridges et Josh Hart pour ramener les trois balises de Villanova? Je ne suis pas sûr non plus. Si Jalen Brunson ne fait pas un sacrifice de 100 millions parce qu'il signe une extension en 2024, De 150 millions, alors que s'il avait attendu une année de plus, c'était 260. Il a dit, moi, je vais prendre 150, comme ça, ça vous laissera de la liberté. Et ça permet aussi d'absorber le contrat de Karl Anthony Towns, parce que s'il signe 250, je ne suis pas sûr que Karl Anthony Towns arrive avec son contrat à 50 millions. Tout est fait en sorte pour que Jalen Brunson, aujourd'hui, soit une icône et la légende des Knicks. Mm-hmm. Donc, pour moi, il est numéro 1.
Pour toi, Arnaud?
Il a gagné avec les Knicks après 53 ans. J'ai l'impression que là, si tu me dis Ewing Brunson, c'est le même débat Platini-Zidane.
Ah ouais, Platini, mais l'Euro. Platini-Zidane, c'est un vrai débat, attention. Hein.
Il a gagné l'Euro, Platini, mais la Coupe du Monde, chez toi, alors il y a aussi une question de génération. Et tu as la même chose sur Ewing, et d'où la réponse du papa de Jalen Brunson, Rick Brunson, en disant « ça reste Patrick Ewing qui était là, qui était présent aussi, parce que c'est iconique, c'est... choix de draft numéro 1 en 85 aussi, puisque tu parlais de ces joueurs choisis par New York, alors que là, Jalen Brunson a été choisi par New York, lui a choisi New York aussi, c'est la rencontre aussi d'une volonté d'être champion. Donc...
Mais regarde, si demain Utah est champion, peut-être que Karl Malone restera le plus grand joueur de l'histoire de Utah, hein. C'est pas non plus ultime comme critère, évidemment c'est très important. Mais
c'est la manière, et c'est vrai que c'est le chouchou de la ville. Moi, j'ai envie de te dire oui, mais attendons de voir comment se termine l'histoire avec Brunson.
Mais surtout, Willis Reed et Walt Frazier, ils appartenaient à l'équipe des Knicks, qui gagnait 60 matchs par saison, qui était deuxième de la conférence Est, et qui était des prétendants au titre NBA, parce qu'en plus de ces deux garçons-là, ils avaient deux joueurs All-Star, ils avaient des mecs qui étaient NBA First Team. Ils étaient attendus tout en haut, ils étaient des prétendants au titre de champion.
Ouais,
les Knicks, avant que les playoffs démarrent, ils sont prétendants au titre de champion NBA?
Non.
Et ça fait...
Il faudra que je revoie la concurrence de l'époque, parce que quand tu vois la concurrence aussi aujourd'hui...
Il y a 15 équipes. Frazier et Willis Reed, ils jouent dans une NBA où il y a 15-16 équipes.
Ouais, mais toi, là, t'écartes Patrick Ewing, toi?
Moi, j'écarte Patrick Ewing parce que alors, c'est une icône, c'est le pivot, mais
je vais vous poser une question. Si demain, vous faites une draft, ils ont tous 20 ans. Tu connais leur qualité, il n'y a pas de problème. Tu connais ce qu'ils vont devenir.
Okay.
Est-ce que tu ne prends pas Patrick Ewing en premier, finalement?
Pas sûr. Hein. Clutch, Brunson, il te fait gagner les matchs, il te fait gagner un titre.
Oui, bah après un pivot dominant, t'as besoin. Hein.
Oui, mais il a gagné.
Ils ont eu des fenêtres.
Il y a les Bulls, il y a les Spurs.
Si on résume le débat, est-ce qu'ils ont gagné? Il n'y a pas de débat, puisqu'il y en a qui a gagné.
Il y a eu deux ans sans les Bulls.
Moi, si vous êtes GM.
J'ai entendu ça. Il y a deux ans sans les Bulls. C'est Hakim qui gagne avec les Rockets.
Attends, il y a eu deux ans sans les Bulls. Oui.
Sans
Jordan. Il y a une fenêtre de tir.
Michael repart en 98. Ils sont là en 99, l'année du lockout. Et ils perdent contre les Spurs.
Mais ils vont quand même
en finale. Il y a eu plusieurs tentatives, c'est pas what if. Ils ont eu la possibilité.
Brunson, les Knicks, ils sont même pas dans les 5 meilleures équipes de la Ligue.
Tu peux opposer à ce que peut-être, dans 5 ans, cette équipe des Knicks aurait été un ovni qui a traversé une saison avec une sorte de magie inarrêtable, et puis qu'ils étaient là, voici, ils étaient là un peu avant quand même.
Mais oui, il faut
finale de conf l'année dernière, Pierrot, quand même. Hein.
Oui, ils font finale de conf l'an dernier, ce qui est vrai, ce qui est incontestable.
Et Brunson fait une finale avec Dallas.
Oui, non, il fait finale de conf aussi, finale de conf, contre les Warriors.
Mais ouais. Je vous repose la question. Est-ce que vous prenez, enfin, qui vous prenez dans une draft avec Willis Reed, avec Walt Frazier, Patrick Ewing et Jalen Brunson?
Walt Frazier, parce qu'il y a des costards incroyables.
Bah oui, costards.
voilà, c'est un personnage, Walt Frazier.
C'est vrai qu'au niveau du look, Jalen Brunson, il y a tout à revoir.
Mais,
hein, quand
mais,
même.
Et juste petit aparté, tu vois que c'est une franchise particulière. Courtside, il y a toutes les anciennes qui sont là. Starks, Marbury,
pas
Carmelo,
Charles Oakley, mais...
pas Charles Oakley parce qu'il est Patrick Ewing. Ils sont tous là et ils sont fans de New York et New York est fan de... Par contre, Jalen Brunson n'est peut-être pas le meilleur joueur de basket à avoir joué pour les Knicks parce qu'il a des carences. C'est pas le plus grand défenseur. Walt Frazier était un défenseur hors norme. Je crois qu'il est 7 fois dans le meilleur 5 défensif. Jalen Brunson, il a des carences. C'est peut-être pas le meilleur... Carmelo Anthony est un meilleur joueur de basket.
C'est peut-être le plus légendaire,
oui.
Le plus mythique.
C'est pas le meilleur joueur de basket.
C'est peut-être pas le plus grand joueur de l'histoire des Knicks quand même.
Mais c'est celui qui a amené New York tout là-haut et je pense qu'il n'a pas un oseille à dépenser de toute sa vie au restaurant à New York, Jalen Brunson. Partout,
ni les
partout,
taxis, ni tout.
Partout, ce qu'il va faire, c'est cadeau. Hey.
Il est légende à vie.
Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a à voir hein, à New York.
Des restos, il y en a
il
à New
va
York,
pas faire hein. Tous les soirs
non,
le même.
Non, 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 non.
Allez, on passe au quiz. Culture générale, les Hornets, la question est abeille, guêpe, les deux ou aucun des deux?
Déjà, c'est un frelon. Mais on...
C'est frelon, hein.
Oui, mais d'accord.
Bah d'accord, donc aucun rapport avec le sujet. Donc,
si, aucun
hors sujet,
rapport.
Hors sujet, mais c'est pas grave.
Mais je fais ce que je veux.
Mais tu fais ce que tu veux.
Premièrement.
C'est nul.
Allez, donc ça sera un contre un aujourd'hui, Stephen face à Arnaud. C'est beaucoup de Knicks, un peu de Spurs. Ouais. Et on démarre par un blind test. Alors, blind test spécial New York. Il y a du très facile. En tout cas, c'est que des artistes ultra connus.
D'accord, Pierre.
C'est juste qu'il y a peut-être des fois des...
Subtilités, des remixes.
Non, pas des subtilités. Peut-être niveau culture. Ah, okay. Par exemple, quand on va passer au jazz, peut-être vous allez être largué, je ne sais pas.
J'ai compris.
Allez, premier extrait.
Jay-Z.
C'est pour Arnaud qui est parti en premier. Deuxième extrait.
Frank Sinatra.
Non.
Herbie Hancock.
Non. Herbie Hancock, je ne sais pas d'où il est, Herbie Hancock, tiens.
Je sais pas, j'ai sorti un jazz.
Miles Davis.
Là, c'est vraiment jazz.
Miles Davis, non?
Années 50-60, je pense.
Armstrong.
Non. Donnez des noms.
Duke Ellington.
Excellent, il est là, le mec.
T'as soufflé, un cochon. Hein.
T'as soufflé. Bravo. Bravo. Qui a soufflé?
Kylian.
Kylian, bah, ouais, c'est pas beau, hein, Kylian. Hein. J'ai dit années 50-60, j'en suis même pas sûr. Hein. C'est peut-être
Duke
même
Ellington,
avant. C'est peut-être ouais, même avant. Il est né en 1899, donc c'est même avant-guerre.
Ah ouais, un ancien Duke.
Bravo, hein. Bravo Duke. Bravo. Ça fait... Je lui accorde ou pas?
Non.
Si.
Plus,
bon. Si, moi, ça me dérange pas.
Ça te dérange pas, bah bravo.
Quand même Strong.
Troisième extrait.
Biggie, Notorious B.I.G.
Hey, Notorious B.I.G. Bravo, Steve. Et on enchaîne.
Alicia Keys. Je l'attendais.
Ça fait 3 à 1. On passe à la culture générale. On devine des personnages de l'histoire qui ont marqué New York, qui sont new-yorkais ou qui ont marqué l'histoire de New York.
Hors sport.
Hors sport.
Okay.
Il y a du facile et du moins facile. Mm-hmm. Alors, on y va. Un des artistes les plus influents du XXe siècle.
Andy Warhol.
Andy Warhol, voilà, bravo. Figure emblématique du pop art. C'était de la rapidité. Bravo, Arnaud. Ensuite, acteur. Légende du cinéma américain.
Robert De Niro.
Un après-midi
Al Pacino.
De chien, Serpico, le parrain, Scarface. C'était l'un ou l'autre et c'était donc Al Pacino. Et enfin, industriel américain.
Rockefeller.
Bravo. John D. Rockefeller. Le nom de son trust, tu l'as ou pas?
Le nom de son quoi?
La Standard Oil.
Ouais.
Voilà.
Sa boîte, quoi.
Considéré comme le premier milliardaire américain l'histoire.
La tour Rockefeller.
Alors, est-ce que je t'ai oublié un point? Ouais. 6 à 1. On passe au basket. Jalen Brunson, MVP des finales. Quel est le seul joueur de l'histoire élu MVP des finales en ayant perdu?
Ah oui.
Jerry West.
Ouais, bravo.
Jerry West
en 1969. Je vais maintenant vous donner le nom d'une franchise et vous allez me donner le dernier MVP de cette franchise chronologiquement, évidemment. Enfin, alors attention, on parle de MVP de la saison régulière, hein, pas des finales.
Ok.
Hein. C'est plus facile, MVP de la saison régulière. Attention, il y a de la rapidité. Selon la difficulté de la réponse, c'est un ou deux points.
Ah oui, c'est
okay. Non, non, j'ai déterminé à l'avance.
Ah, okay.
Parce qu'il y en a des pas faciles. Hein. Attention, rapidité, San Antonio.
Duncan.
New York.
Pat Ewing ?
Non.
Willis Reed.
Willis Reed.
Ah, oui.
Détroit.
Billups. Détroit.
Non. MVP Détroit. Isaiah Thomas.
Non.
Ah, non, c'est avant.
Détroit. Saison régulière. Hein. Isaiah Thomas l'a eu MVP des finales. Et Billups aussi, d'ailleurs.
Jamais.
Jamais, bravo Arnaud. Houston.
Hakeem the Dream.
Non.
Harden.
Harden, alors je sais pas qui est parti en premier, on va dire.
Il y a un chouïa, Stephen. Allez, il dit le James commence un peu avant.
Steve, ça fait 8-4. Boston.
Tatum. Non, je suis bête. Qu'est-ce que je dis ?
Qu'est-ce que je te dis ? Oui. Tatum, non.
Larry Bird.
Larry Bird. Heureusement, c'est ta franchise. Hein.
Mais oui, oui,
Portland.
Personne.
Si. On en a parlé cette saison. Non.
Portland.
C'est lui. Oui, c'est lui.
Walton.
Bill Walton.
2 points. Atlanta.
Dominique Wilkins.
Atlanta, 3 points.
Ah, Bob Petit.
Oh, il revient avec un shoot à 3 points improbable.
De Bob Petit.
On est à 9. 9. Ah, Lakers.
Kobe.
Kobe. Allez, il est lancé. Ouais, c'est Jalen Brunson. Chicago.
Michael.
Derrick Rose, c'était le piège. Et oui. Et enfin, Indiana.
Indiana, personne.
Personne. Ouh là 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 là.
C'est Jalen Brunson dans le Money Time,
ouais,
Stephen.
C'est ça. Ça fait 12 à 9. Toi, t'es les Spurs, par contre. Alors ensuite, attention. Attention. Patrick Ewing ou J.R. Ewing. Les deux ou aucun des deux. Alors. Le problème,
les stagiaires qui sont là en régie, ils doivent connaître aucun des deux par contre.
Donc, eh bien, on va faire un peu d'éducation télévisuelle. Donc, Dallas est une série mythique des années 70 et 80 qui se passe à Dallas dans l'univers du pétrole. Avec tout simplement une entreprise familiale où c'est tous des gros bâtards. Voilà.
Il y a de l'alcoolisme aussi. Il y a
beaucoup d'alcoolisme. Alors, le problème, c'est que vous étiez censé être trois, donc j'ai trois questions. On va démarrer par Stephen. Stephen. Je me suis fait voler de l'or. Patrick Ewing, J.R. Ewing, les deux ou aucun des deux.
Je me suis fait voler de l'or. Alors, je pense que J.R. Ewing, il a dû se faire voler de l'or. Est-ce que Patrick Ewing n'a pas été cambriolé et il a forcément des bijoux en or ? Donc, je vais dire les deux.
Alors, la bonne réponse, c'est les deux. L'anecdote exacte, c'est qu'il s'est fait voler ses médailles d'or olympiques, Patrick Ewing. La bonne réponse. Arnaud Valadon.
Ouais.
Je suis végétarien.
Pouf. Aucun des deux.
Ah, si Patrick Ewing est végétarien. Et la dernière, bon, je vous la fais pas, c'était pour Fred. Je suis dingue de pêche. Pêche à la ligne. Hein. C'était J.R. Ewing. On revient à quelque chose de plus normal. Mike Brown. Ok, coach sacré. Alors là aussi, lui, un peu revanchard, en tout cas, qui redore son blason, on va dire. Que faisait-il Mike Brown en 2003 ?
Il était assistant des Spurs.
Exactement. Oui. Assistant coach de Popovic. Quel est le point commun, alors on change complètement d'univers, entre Paco Dadier et Evan Fournier ?
Charenton. Ça veut dire.
Alors c'est plus que Charenton.
C'est le club.
Ils sont nés à Charenton.
Non.
Ils ont joué ensemble à Charenton.
Et ils ont fait l'INSEP ensuite.
Charenton, Centre fédéral et New York quand même.
Ah ok, pardon.
J'accorde à Arnaud.
Vas-y.
Qui m'a rajouté le Centre fédéral. Avant Mohamed Diawara et Paco Dadier, qui était le dernier Français champion NBA ? Toupane.
Non, c'est
bien
Ousmane Dieng, okay,
mais c'est Ousmane Dieng l'an dernier. Dans les joueurs en activité, qui a le record du plus grand nombre de fautes par match en play-off ?
Les joueurs en activité.
Ouais,
un boucher charcutier.
Mais je veux dire sur toute sa carrière.
Ouais,
sur cette campagne.
Non, sur toute sa carrière.
Il l'aime bien.
Non, réfléchissez.
Et il est en activité.
Ah, en activité.
En activité, ouais. Réfléchissez, hein, c'est un rapport avec l'actualité.
Mitchell Robinson ?
Non.
Carl Anthony Towns,
t'en as parlé tout à l'heure, c'est Carl Anthony Towns qui est à près de 4 fautes par match, donc parfois 6. Hein. Question Mesmer.
Le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain, il recommence.
Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
Tu peux me laisser parler ? T'as trouvé ça où, toi ?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi ? Voici la question Mesmer.
Avec RMC.
Je vous fais juste un point sur le score. Il y a 6 points d'avance pour Steve, mais il y a une question multipoint qui peut rapporter gros. Alors, la question Mesmer. Dylan Harper fera-t-il une meilleure carrière que Ron Harper ?
Il y a combien de titres, Ron Harper ? 3 ?
5. Ah ouais, ah, c'est costaud, hein.
Alors moi, je vais te dire non. Je pense qu'il aura peut-être en carrière des meilleurs chiffres, sauf qu'on oublie souvent que Ron Harper, au début de sa carrière, est un fantastique scoreur. Je crois qu'il fait des saisons presque, je pense, à 20 points de moyenne. Ron Harper, après, il se transforme en role player.
Juste, voilà, exactement. C'est exactement ça, son parcours. Oui. Un franchise player qui est devenu un lieutenant, mais en faisant ça, il a gagné 5 titres.
Mais il faut prendre en considération que Ron Harper n'a pas été qu'un role player. Il a eu des responsabilités, il les a plutôt bien assumées au début de sa carrière. Maintenant, je ne vois pas Dylan Harper prendre 5 bagues. Je ne sais pas si Dylan Harper peut se réinventer, parce qu'il a quand même les qualités de scoreur, de mettre des points dans la percussion compagnie. Je ne sais pas si un jour il peut se réinventer comme un role player, mais ça on le saura dans pas mal de temps, parce qu'il est encore jeune. Donc je vais dire, je pense qu'il sera leader d'une franchise plus longtemps que son père, Dylan Harper, mais qu'au final, sa carrière sera moins bonne que papa.
Arnaud.
Moi, je pense que tu vois en Dylan Harper une trajectoire à la Jalen Brunson. Il va emmener un jour une franchise au titre. Peut-être pas les Spurs. Il va aller peut-être faire sa vie ailleurs, mais tu vois un énorme potentiel et il va dominer une franchise et dominer la ligue. Et donc, faire mieux que son papa. Il aura peut-être pas 5 bagues.
Dominer la ligue, ça veut dire que, parce qu'ils ont un an d'écart avec, ou deux ans d'écart avec Wembanyama, c'est-à-dire qu'il sera meilleur que Victor s'il domine la ligue.
En tout cas, par séquence, par saison.
Tu peux
en tout
être
cas,
plusieurs à dominer la ligue. C'est-à-dire que si tu prends Shea, Victor, etc., tout le monde.
Giannis, Jokic, bon, ils se sont partagés quand même le gâteau. Ça peut arriver, quoi.
Oui, ça peut arriver. Ça n'arrivera pas à
Dylan Harper. Hein, le point, il va pour Steve. Je vois pas comment tu peux faire mieux que 5 bagues, parce que même en étant le lieutenant de Jordan ou de Kobe, bon, c'était quand même un joueur important, hein, dans ces titres-là. Donc,
je crois qu'il démarre au clip quand il est tout gagné.
Mais si
Clippers,
dans 10 ans, il a 5 bagues, je te redonnerai le point. Alors, non. Ah, oui. Alors, pour finir, tu as 7 points de retard. Aux enchères, on va le faire rapidement. Les MVP des finales, années 90 et 2000. Il y a beaucoup de mecs faciles à trouver. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puisqu'il y a des mecs qui l'ont eu plusieurs fois, évidemment, et qui ne sont pas trop durs à trouver en plus.
Donc c'est 90, 2000, 2000-2010.
Ça va de 1990 à 2009.
À 2009, okay. Voilà. Ouais, donc je ne peux pas dire Dirk, c'est dommage.
Première enchère d'Arnaud Valadon, qui a 7 points de retard.
T'en as combien, tu as dit ?
10.
Il y en a 10 ?
Il y en a 10.
Il y en a 18, t'as gagné.
8 ?
8, ben non, mais tu peux enchérir.
Non, je sais.
Franchement, les 8, tu peux les trouver.
Oui,
hein.
Bah oui.
Alors, c'est juste qu'il faut être rapide, là.
Kobe Bryant.
Kobe, c'est bon.
Paul Pierce.
Paul Pierce, c'est bon. Il fait à rebours, il est malin.
Shaquille O'Neal.
Le Shaq, 3 fois.
Tim Duncan.
Duncan, 3 fois.
Tony Parker.
C'est bon.
Grand Détroit gagne.
T'en es à la moitié, là. T'en as 5.
Michael Jordan.
6 fois. C'est correct.
Hakeem Olajuwon.
2 fois. Et donc, il me faut encore une bonne réponse. Ah, tu rentres plus dans le dur. Mais bon,
après, c'est je suis sur le titre de Détroit.
Tu vas me trouver les trois.
Faut aller un.
Tu vas me trouver les trois. C'est pas impossible.
Bah, Isaiah. 90. Ah, je sais plus en 2003. Est-ce qu'il me manque ça? Chauncey Billups.
Billups 2004, c'est bon.
2004.
Et vas-y, enchaîne.
Isaiah Thomas.
Isaiah Thomas, 90, c'est bon. Et il vous manque...
Quelle année il nous manque ?
2006.
Bah, c'est Dwayne Wade ?
Dwayne Wade.
J'ai hésité avec...
Victoire d'Arnaud, t'aurais dû les tenter, les 9-10. Victoire d'Arnaud.
Il n'aura pas besoin de son point de Dylan Harper.
Voilà, exactement. À l'année prochaine.
Ciao. RMC. Basket Time.